Dominique Pélicaud n'en a pas fini avec la justice. Il a été entendu cette semaine par l'une des juges du pôle des affaires non élucidées de Nanterre. Juge qui s'intéresse au rôle que Dominique Pélicaud a pu jouer dans deux affaires jamais résolues. Un viol et un meurtre. Deux affaires dans lesquelles il a tendu un piège machiavélique à ses victimes. Victimes qui pourraient être encore plus nombreuses. Les enquêteurs ont déjà recensé 5 affaires dans lesquelles Dominique Pélicaud pourrait être impliqué. La face cachée de Dominique Pélicaud, c'est dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, retour sur ces deux affaires sur lesquelles il a été entendu cette semaine avec Elisa Trana.
Ce sont des traces d'empreintes génétiques relevées sur une scène de tentative de viol il y a 25 ans qui ont permis à la justice de remonter jusqu'à Dominique Pélicaud. L'ADN prélevé à l'époque n'a pu être identifié qu'en 2020, après son arrestation dans l'affaire des viols de Mazan. En 1999, une jeune négociatrice en immobilier tombe dans un guet-apens. En pleine visite d'un bien à Villeparisis, son client la menace avec un cutter, cherche à l'endormir avec une compresse imbibée d'éther et tente de l'agresser sexuellement. Elle se débat et parvient à s'enfuir. Mise en examen, Dominique Pélicaud a été entendu cette semaine sur cette tentative de viol.
Il explique qu'il a eu une pulsion vis-à-vis de cette jeune femme, qu'il y a eu une agression physique de cette jeune femme et qu'à un moment donné, quand elle se débat, qu'il y a eu cette tentative d'endormissement et que quand elle se débat, il réalise ce qu'il est en train de faire et il s'en va.
Durant ces 4 heures d'audition, Dominique Pélicaud a également été interrogé sur le meurtre de Sophie Narme en 1991. Agent immobilier à Paris, elle avait elle aussi rendez-vous avec un client dans un appartement de la rue Manin. Son corps a été retrouvé sur place. Les prélèvements ADN ont été égarés, mais le mode opératoire est proche de celui de Villeparisis.
Il se trouve que dans les deux cas, la victime a été bâillonnée, a été frappée, a été violentée, a été dénudée, a été ligotée et étourdie avec de l'éther.
Mise en examen également dans cette affaire, Dominique Pélicaud nie toute implication.
Évidemment, ces affaires suscitent beaucoup de questions autour du profil de Dominique Pélicaud. On va reprendre tout cela avec nos invités. Jean-Alphonse Richard, bonjour Jean-Alphonse.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver, journaliste, présentateur de l'heure du crime sur RTL. Et Paul Bensusson, bonjour.
Bonjour.
On est ravi de vous accueillir pour la deuxième semaine consécutive. Vous êtes l'expert du moment, psychiatre, expert judiciaire, évidemment. Et vous avez expertisé Dominique Pélicaud dans le cadre du procès Mazan. Ce sera évidemment intéressant d'avoir votre regard sur le profil de Dominique Pélicaud. D'abord, Jean-Alphonse, ces deux affaires qui sont donc aujourd'hui au cœur des investigations pour lesquelles donc Dominique Pélicaud a été entendu par les juges. Prenons la première, cette jeune femme, agent immobilière, cette jeune Marion. Comment ça se déroule? On a le sentiment qu'il y a quelque chose de très à la fois pulsionnel et en même temps de très organisé.
Ah ben pour Marion, effectivement, donc là, on est en le 14 mai 99. Dominique Pélicaud, puisque c'est lui, il a reconnu les faits, donc voilà. Il se présente à une agence immobilière, il va dire qu'il est intéressé par un bien, il regarde la vitrine, et effectivement, il a repéré d'ores et déjà Marion. Ça, on le sait aujourd'hui, il l'a regardée, etc. Il a pu la repérer. Là-dessus, il est pressé. Il faut absolument qu'il visite le bien très vite. C'est un petit duplex, etc. Il faut qu'il le visite. C'est une urgence. Il est très intéressé par ce bien. Donc Marion dit bah, très bien. Elle a 19 ans. Marion, elle dit une affaire formidable. Ça va être rapidement fait. Il dit je m'absente une seconde. Il va à sa voiture. Il prend de la ficelle avec laquelle il emballe des meubles, dit-il. Il prend également un produit qui contient de l'éther. Il met tout ça dans sa poche. Ils vont visiter le bien. Là, il demande à la jeune femme de mesurer le sol. Elle se retourne avec son maître pour résumer le sol, pour mesurer le sol. Et là, il lui place un cutter sous la gorge. Alors, il dira, j'ai jamais eu de cutter de ma vie. Je n'utilise pas, c'était des clés. Je me posais mes clés sur sa gorge. Mais elle est formelle, Marion, elle dit voilà. Donc, il va y avoir une tentative de viol à ce moment-là. Il va la bousculer. Il va l'attacher dans le dos. Il a prévu de la ficelle. Là, c'est très intéressant parce que dans la méthodologie, la juge Nathalie Turquet lui dit mais pourquoi vous avez pris de la ficelle et puis pourquoi vous avez pris du produit? Alors, produit, c'est pour l'étourdir un petit peu. La ficelle, c'est encore plus intéressant parce qu'il dit ça permettait d'éviter les coups de tête. Éviter les coups de tête. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, quand il dit ça, j'analyse, et la juge fait cette analyse, que c'est quelqu'un qui a l'habitude déjà du viol, qui a l'habitude d'une victime qui, d'un seul coup, n'accepte pas ce qui se passe et va essayer de lui donner des coups. Fort heureusement pour Marion, elle va réussir à s'en sortir, et grâce à un stratagème extraordinaire, c'est qu'elle va faire semblant d'être endormie. elle va essayer de ne pas respirer ce produit très nocif, très toxique, et elle va ensuite réussir à s'enfuir et aller s'enfermer dans un dressing. Voilà pour la méthodologie. Qu'est-ce qu'il en sort pour la juge ? C'est que c'est quelqu'un qui a manifestement une méthodologie qui existe, précise, et qui a une habitude.
Et ça montre quelqu'un qui est particulièrement organisé, qui a prémédité, qui a préparé, qui a repéré, qui est allé à l'agence, qui entre-temps est allé chercher du matériel dans sa voiture, qui sait, vous l'avez expliqué Jean-Alphonse, que il peut lui aussi risquer d'être blessé, d'être frappé par sa victime. Donc, est-ce que Dominique Pellicot est un homme organisé ?
Alors, cette affaire étant en instruction, je
vous
ne parlerai
pas en parler,
bien sûr
que c'est un homme organisé
d'Avignon. Oui, c'est un homme méthodique, organisé, avec une stéréotypie du mode opératoire. Au moment du procès de Mazan, on a bien vu que les invités suivaient tous un protocole parfaitement mis au point et identique d'un jour à l'autre et même au fil des années. Donc oui, c'est un homme méthodique, froid et organisé.
Ça dit quoi de sa personnalité ? Encore une fois, vous l'avez vu dans le cas du procès Mazan et vous ne vous prononcez pas sur ces affaires qui sont en cours. Que c'est un homme de pulsion, mais un homme qui s'organise pour les assouvir. Que c'est un homme qui a des procédés qu'il peut répéter. Qu'est-ce que vous en déduisez ?
La stéréotypie du mode opératoire caractérise la perversion. Alors, réellement, sous cet angle, il est exemplaire. C'est-à-dire, il est méthodique et il met au point, effectivement, un protocole très strict dont il ne faut pas dévier parce que c'est un homme qui a un tempérament un peu dominateur, autoritaire, voire autoritariste. Et il est très attaché à ce qu'on suive exactement le scénario qu'il a anticipé.
Parce qu'il y prend du plaisir ou parce que ça le rassure ? Et là, on parle évidemment du procès de Mazan.
Alors, le besoin de maîtrise était défini par tous les co-accusés. Bon, bien sûr qu'ils se sont défaussés de leur propre responsabilité en disant qu'ils étaient sous l'emprise de Dominique Pellicot, ce qui est très certainement excessif. Mais en tout cas, c'est un homme qui dirige. J'ai employé dans mon rapport d'expertise l'expression de chef d'orchestre des soirées qu'il pilotait pour ses invités. Avec un déni de la réalité absolument sidérant, puisqu'il est capable de se présenter non seulement comme un homme qui aime son épouse, mais qui la protège. Puisque le sommeil, qui est plus proche du coma quand on a vu les vidéos que du sommeil, le sommeil, dit-il, lui évitait d'avoir à souffrir, de subir les choses qu'elle n'aimait pas dans la vraie vie.
Pardon, Dominique.
Pardon, Philippe. Est-ce que quand vous lui posez des questions, docteur, est-ce que c'est un homme docile qui vous répond ? Et quand les psys, vous le savez mieux que moi, vont rencontrer quelqu'un en prison, ça se passe pas toujours bien. Est-ce qu'il est docile ? Est-ce qu'il vous dit ce qui s'est passé ? Et si oui, à quel moment il se bloque ? Est-ce qu'il y a un moment où il arrête de parler ?
Je n'emploierai certainement pas l'expression de docile. Déjà, il y a quelque chose qui frappe, c'est que un homme de 70 ans qui n'a jamais été incarcéré, jamais été mis en examen pour quoi que ce soit, qui se retrouve quand même dans une affaire avec une honte sociale intense, une médiatisation importante, pourrait, par hypothèse, être diminué ou affaibli. Eh bien non, cet homme qui pourtant a une arthrose de la hanche, qui se rend au parloir avec une canne en claudiquant, garde sa superbe et je dirais presque son arrogance. C'est un homme retors qui laisse percer son impatience quand les questions se font trop précises, qui néanmoins n'écourte pas l'interrogatoire, qui n'a pas de stratagème d'évitement, de réticence, mais qui montre quand même les limites qu'il ne faut pas franchir. Donc il n'est pas docile, il garde un désir de maîtrise, même dans une situation qui pourrait être infériorisante.
C'est très intéressant parce que, en creux, encore une fois, là, on rebascule dans les affaires qui sont en cours. Mais l'autre affaire en cours, c'est celle de Sophie Narme, pour laquelle, là aussi, il a été entendu. Où là aussi, alors là, pour le coup, il n'y a pas de preuve de culpabilité comme on l'a dans la première affaire.
Et il n'a rien reconnu.
Il est donc suspect pour le moment. Mais dans cette affaire, là aussi, l'agresseur de Sophie Narme, le meurtrier de Sophie Narme, est quelqu'un de très organisé, qui veut garder le contrôle et qui va tout avoir préparé.
Mais c'est pour ça que la juge turquée regroupe oui. ces deux dossiers. Hein. Elle est partie du fait que Marion avait été, il y avait eu une tentative de viol. Là, il faut quand même rappeler qu'il a laissé son ADN sur cette tentative de viol. Il y a du sang hein, de Dominique Pellicot. Il va avouer d'ailleurs à cause de ça. Il va pas avouer directement, évidemment, ce fait. Pour l'autre fait, celui de Sophie Narme également. Alors il y a beaucoup d'effectivement de choses qui se ressemblent. Hein. Ce sont deux femmes qui sont agentes immobilières. Dans les deux cas, la personne qui a fait la tentative de viol, à savoir Dominique Pellicot, et la personne qui a violé et tué Sophie Narme a utilisé de l'éther. Là, c'est quelque chose qui est très très important. Hein. Le fil rouge, c'est aussi l'éther et le produit chimique. Il y a aussi une méthodologie qui est la même, à savoir les coups donnés au visage et au crâne à chaque fois. C'est important aussi. Il y a un détail qui n'a pas du tout échappé à la juge et qui est très très important, c'est que chaque fois, il laisse les chaussures des victimes dans un ordre parfait. C'est-à-dire qu'il ne veut pas, en gros, déranger la victime presque dans son intégrité. Donc, il va, pour Sophie Narme, il laisse ses chaussures, ce sont des escarpins bleus, ouais. Il va les poser avec précaution, on va les retrouver près du corps. Et également pour Marion, c'est la même chose. Il prend les chaussures, il les pose. Il y a une espèce de fétichisme, une espèce d'habitude, etc., que pourrait expliquer Monsieur Bensoussan sûrement. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, beaucoup, beaucoup. Pour autant, il faut le rappeler, il n'est pas aujourd'hui directement impliqué dans le dossier Sophie Narme, même s'il est mis en examen, mais il ne reconnaît pas du tout les faits.
Sur ces aspects de fétichisme que souligne Dominique à l'instant.
Par le...
Jean-Alphonse, pardon.
Pardon ?
Non, j'appelais Jean-Alphonse oui. Dominique. Oui.
On se connaît bien.
Oui. Oui, je sens, encore une fois, sans réagir sur cette affaire, mais dans ce que j'ai pu voir au niveau du procès de Mazan, il y avait de nombreuses déviances. Le terme technique aujourd'hui, qui est moins moralisant, s'appelle paraphilie, c'est-à-dire des attirances en dehors de la norme. Mais parmi ces nombreuses déviances, il y avait le fétichisme. Le fétichisme, si on veut le définir très simplement, c'est de dissocier une partie du tout. Ça peut être une partie du corps, le pied, les seins ou que sais-je. Ça peut être des accessoires. La lingerie, par exemple, dans le procès de Mazan, tenait un rôle très important puisqu'il affublait sa femme... une fois endormie, et même sa fille, malheureusement, d'une lingerie qu'il considérait, lui, comme érotique ou érogène. Donc, il y a des tendances fétichistes chez cet homme.
La grande question qui se pose, c'est entre Marion, entre Sophie Narme, et ce qu'on a découvert, et ce qu'a enduré Gisèle Pellicot, c'est cette période entre les deux. Pouvez-vous imaginer que dans cette période, il n'ait rien commis ?
Encore une fois, je suis vraiment tenu par le fait que l'instruction est en cours, donc je ne m'exprimerai pas directement, mais en termes, au plan criminologique, c'est assez peu probable. La seule chose qu'on peut vraiment déplorer, et là je peux m'exprimer puisque c'était dans le cadre du procès de Mazan, c'est qu'en 2010, quand il se fait pour la première fois interpeller en filmant sous les jupes des femmes, on a son ADN et on ne fait pas le rapprochement avec l'ADN de 1999 pour cette jeune femme tentative de viol. Donc on peut dire que ce qu'a subi Gisèle Pellicot entre 2010 et 2020 n'aurait certainement pas eu lieu si on avait fait le rapprochement à l'époque. Ça, c'est quelque chose qui est à peu près certain et sur quoi je peux me prononcer.
Mazan, une série de viols. Marion, agente immobilière, Jean-Alphonse, vous venez de nous le raconter, violée. Sophie Narme, agente immobilière, violée. Et tué. Pellicot, il n'a pas le profil d'un tueur.
Pellicot, pardon ?
Il n'a pas le profil d'un tueur. C'est un violeur, il n'a pas le profil d'un tueur.
Encore une fois, vraiment, sur cette affaire, j'ai rendu un rapport.
Vous ne pouvez pas nous répondre, mais est-ce que la réponse est dans votre tête ? Vous ne pouvez pas nous le dire.
On pourrait dire que j'ai une opinion. J'ai rendu un rapport au magistrat instructeur et par respect pour le magistrat instructeur, je n'en parle pas. Le magistrat instructeur connaît mon opinion à ce sujet.
D'accord.
Jean-Alphonse, comment le pôle des affaires d'Anne-Lucidé travaille sur ces deux affaires, mais aussi sur au moins cinq autres dans lesquelles il pourrait être lié ? Et la question, c'est bien cette période. Y a-t-il une période blanche
On sait que les périodes blanches, les parenthèses blanches, comme on les appelle, ça n'existe pas en matière de crimes sériels. On a cru longtemps que Fourniret n'avait rien fait pendant une dizaine d'années. C'est totalement faux. On sait qu'il était en activité. Donc voilà. Donc ça, c'est effectivement, c'est quelque chose qui est assez fragile. Ensuite, comment on travaille? On travaille évidemment par rapprochement. Alors il y a quelque chose qui revient sans arrêt, c'est l'utilisation de l'éther et puis les petits tics, les manies de la personne qui est à la fois tenté de violer Marion et celle qui a tué Sophie Narme. Donc effectivement, on travaille par rapprochement. C'est pas simple, c'est très long. Vous avez parlé de certains dossiers qui sont en cours, effectivement, dont toujours des agentes immobilières. Il faut bien en rester là-dedans. Il faut rappeler aussi que à l'époque de la mort de Sophie Narme, les policiers de la brigade criminelle qui ont fait un travail formidable à l'époque, parce que les procès-verbaux d'époque de la brigade criminelle sont remarquables et exemplaires. Ils avaient été très choqués par ce crime dans cet appartement vide. Ils le décrivent encore aujourd'hui avec beaucoup d'émotions. Et bien, ils avaient déjà repéré 8 agentes immobilières qui, dans les mois précédents la mort de Sophie Narme, avait été attaquée. C'est pas rien. Alors effectivement, il n'y a pas toujours utilisation de l'éther, etc. Mais ils avaient fait une liste qui existe encore aujourd'hui avec des victimes. Donc on peut se poser des questions. On peut se poser des questions. Voilà, on en est au stade aujourd'hui des questions. Et la juge Nathalie Turquet et les enquêteurs du pôle font un boulot vraiment formidable qu'il faut encore saluer. Ils travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus.
Je ne peux pas m'empêcher de réagir avec ce qui vient d'être dit en pensant à la femme et à la fille de Gisèle Pelicot, bien sûr à ses enfants, mais en particulier à sa fille qui a découvert une photo d'elle endormie, parce qu'elle ne saura jamais ce qui s'est réellement passé. La seule chose dont elle est certaine, c'est d'avoir été droguée, puisqu'elle n'a pas de souvenir d'avoir revêtu cette lingerie. Mais je pense à l'effroi que doit avoir toute sa famille en apprenant ses instructions en cours. C'est-à-dire que réellement avoir vécu, déjà, tout le monde avait l'impression d'avoir vécu aux côtés d'un homme qu'il ne connaissait pas vraiment. Mais si l'effroi ne faisait que commencer avec Mazan, alors ce serait vraiment des répercussions psychologiques vertigineuses.
Vous avez raison. Merci beaucoup. Merci à vous deux.